On vient d'entendre Dominique Vidal qui, avec Karim Bourtel, a publié chez Agone un bouquin qui s'intitule « Le mal-être arabe, enfant de la colonisation ». On a avec nous aussi Suzanne Citron, qui est historienne et qui est l'auteur d'un livre qui avait fait, qui est une grande référence, qui s'appelle « Le mythe national ». Le titre dit assez bien votre préoccupation, mais vous avez notamment travaillé sur la construction du mythe national dans les livres scolaires, notamment, on va en parler. Et puis, Ronnie Broman, qui est ancien président de Médecins Sans Frontières et qui enseigne à l'Institut d'études politiques. Vous avez contribué dans la fracture coloniale, dans le bouquin La fracture coloniale, à essayer de décrire la persistance coloniale dans l'humanitaire. On peut résumer comme ça?
Oui, on peut le résumer comme ça.
Un petit peu abrupt
et qu'il y a différentes choses dans l'humanitaire, mais ce qui m'a incité à accepter tout de suite cette proposition de participer au livre, c'est ma conviction, mon observation surtout, et ma conviction que l'humanitaire contemporain doit quelque chose à la colonisation, disons aux versions, à la version humaniste de la colonisation, ne serait-ce que si l'on reprend ce que, par exemple, les ONG de développement et d'aide humanitaire, d'ailleurs, parce qu'en l'occurrence, il n'y a aucune distinction à faire. En l'occurrence et dans d'autres occurrences également, mais là c'est plus net qu'ailleurs. Il y a à la fois un paradigme altruiste et un paradigme modernisateur dans l'idéologie du développement qui fonde l'essentiel des pratiques. On va moderniser, c'est-à-dire sortir des sociétés plongées dans l'obscurité, prisonnières de leur tradition. On va les aider à s'émanciper d'elles-mêmes, à sortir de leur carcan traditionnaliste. Et puis on le fait au nom d'une position, au nom d'un idéal altruisme, de sacrifice de soi, de don de sa personne, etc. Or, précisément, ce sacrifice, ce don de sa personne d'un côté, cette volonté de moderniser, de sortir des ténèbres pour aller vers les lumières, c'est bien aussi ce que l'on appelait la mission civilisatrice de l'Europe et en particulier de la France coloniale. Alors il y a aussi bien du côté des motivations, des cadres intellectuels, que du côté des pratiques. Je donne dans mon article l'exemple des pratiques dites d'hygiène, que j'appellerais plutôt de morale hygiéniste que d'hygiène, mais qui sont évidemment nommées hygiène au sens où elles sont censées, la façon dont on fait bouillir l'eau, dont on se lave les mains, dont on organise la nourriture, dont on nourrit ses enfants, tout cela serait censé, disons, permettre de lutter contre une mortalité infantile due pour l'essentiel à des fautes d'hygiène. Je le dis sur le plan technique, c'est faux. C'est une illusion scientiste, ça n'est pas une réalité observée. En revanche, c'est un formidable levier de prise de pouvoir. On arrive chez des gens, on s'impose chez eux, on leur dit, bah voilà, vous nourrissiez vos enfants comme ça, bah il faudrait changer, il faut creuser une latrine ici, il faut organiser la cuisine comme ça, il faut se nourrir de telle façon. Bref, on se pose, comme j'essaie de le montrer, en instituteur de l'intime, en professeur de comportement enfin, auprès
vous,
de gens.
Vous continuez l'œuvre des missionnaires.
Voilà,
c'est vous êtes un peu le goupillon moderne,
enfin,
le
vous,
goupillon du libéralisme.
Moi, justement, si je parle de ça, c'est parce qu'à Médecins Sans Frontières, j'ai essayé, je tente toujours, non sans un certain succès, de lutter contre ce genre de pratique. Nous ne sommes pas, justement, des professeurs de morale hygiéniste, ou en tout cas, quand ce genre de dérive se produit, nous tentons, avec succès généralement, de la retenir. Mais c'est une pratique qui est assez largement utilisée parce que elle tombe sous le coup d'une sorte d'évidence scientifique, d'une évidence pratique qui est tout ça aide les gens, tout ça leur permet de vivre plus longtemps, d'avoir des enfants en meilleure santé, ce qui n'est pas vrai.